Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. Après les guerres du pétrole, voici les guerres des métaux. Transition écologique oblige, le nouvel or noir n'est plus liquide, mais solide. À présent, les entreprises et les États se battent pour accéder aux mines d'aluminium, de nickel, de cobalt, de cuivre, de lithium et autres terres rares. Comment s'organise cette compétition mondiale? Est-elle régulée? Où la loi de la jungle s'impose-t-elle? Pour en parler, je reçois Benjamin Louvet, gérant d'actifs spécialisé dans les matières premières, qui vient de publier avec Emmanuel H. aux éditions du Rocher un livre intitulé « Métaux, le nouvel or noir ». Bonjour Benjamin Louvet.
Bonjour Ali.
Alors, en quelques mots, en quoi ces métaux vont remplacer le pétrole dans les mois, peut-être les années qui viennent?
On va faire très simple. En réalité, on a aujourd'hui l'obligation de changer notre source d'énergie, puisque l'utilisation des énergies fossiles émet du CO2, qui est un gaz à effet de serre et qui entraîne le réchauffement climatique. Et donc, on a des solutions à notre disposition. Certaines sont controversées, comme le nucléaire, parce qu'il y a des risques, parce qu'il y a la gestion des déchets. Et puis d'autres sont assez consensuelles. On parle des énergies renouvelables, et notamment du solaire et de l'éolien. Le problème, c'est qu'en réalité, on ne sait pas faire de l'électricité avec du vent ou avec du soleil. On sait faire de l'électricité avec un transformateur qui va convertir l'énergie du vent ou du soleil en électricité.
Et ce transformateur,
il faut le fabriquer.
Voilà.
Et aujourd'hui, il est essentiellement composé de métaux. Pour vous donner quelques exemples, dans une éolienne, vous avez entre 950 kg et 5 tonnes de cuivre, en fonction de la taille de l'éolienne. Vous avez 5 tonnes et demie de zinc pour protéger l'éolienne contre la corrosion. Dans une voiture électrique, vous avez 4 fois plus de cuivre que dans une voiture thermique classique. Dans un panneau solaire, vous avez des toutes petites quantités d'argent, 5 grammes, mais comme on en produit énormément, le solaire qui ne représentait rien dans la consommation de l'argent il y a 10 ans, aujourd'hui représente 20% de la demande mondiale d'argent. Donc on a un bouleversement complet de la demande de métaux, et cette tendance va être amenée à s'accélérer, puisque le CNRS nous dit dans une étude que sur les 30 prochaines années, il va falloir extraire de la croûte terrestre autant de métaux que depuis le début de l'histoire de l'humanité.
Allez, on parle de quels métaux?
Alors, ce qui est étonnant, c'est que tout le monde a en tête des métaux qu'on qualifie de rares, les terres rares notamment, qui en fait ne sont pas des terres et ne sont pas rares. Il y en a beaucoup, on a décidé de laisser la Chine les exploiter, mais il y en a beaucoup. Et il y a d'autres métaux dont on parle beaucoup moins et qui pourtant sont beaucoup plus critiques, même s'ils sont beaucoup plus communs. Le cuivre, par exemple, est un métal qui pourrait rapidement poser problème, parce que l'Agence internationale à l'énergie, par exemple, qui est l'organisme qui conseille les pays de l'OCDE dans leur politique énergétique, dit qu'aujourd'hui dans le monde, il y a 250 mines de cuivre opérationnelles. Et si on regarde la taille moyenne de ces 250 mines, l'AIE nous dit qu'il faudrait rajouter 80 mines de cuivre supplémentaires d'une taille égale à la taille moyenne de ces mines-là. Mmh. Et comme il faut en moyenne dans le monde 17 ans pour ouvrir une nouvelle mine, eh bien il faudrait décider de créer ces nouvelles mines dans les 3 ans qui viennent. C'est un gros challenge, parce que quand on regarde aujourd'hui, il y a, on va dire, une dizaine de projets de nouvelles mines de cuivre qui sont à l'étude, ce qui voudrait dire qu'on pourrait manquer de métal. Et en fait, on ne peut pas manquer d'une matière première. Si on n'a pas assez d'une matière première, il faut réduire la consommation ou augmenter la production. Et le seul moyen de faire ça, c'est de faire monter le prix.
Et le vieux fer, alors, qui nous a servi?
Le minerai de fer, lui, est utile aussi. Il va être extrêmement important. On peut parler de l'aluminium aussi. La bauxite est un gros challenge. Vous avez le cobalt, qui est indispensable pour les batteries des voitures électriques. Le nickel. Tous ces métaux sont aujourd'hui des métaux absolument critiques dans le cadre de la réalisation de la transition énergétique. Dit autrement, il n'y aura pas de transition énergétique si on ne produit pas suffisamment de métaux.
Alors, bon, un problème de production. Sur les marchés, on réagit comment par rapport à cette transition?
Alors, à court terme, on a les conséquences de la crise du Covid, qui fait que, pour l'instant, la Chine, qui est le plus gros consommateur de métaux au monde, la Chine aujourd'hui consomme 50% de tous les métaux de la planète. La Chine est sortie de son Covid début 2023. Et donc, depuis, elle utilise plutôt les stocks qu'elle avait constitués pendant cette longue période épidémique. Et donc, elle n'est pas à la demande sur le marché international. Résultat, les prix sont plutôt en berne.
D'accord.
Et c'est encore plus problématique, parce que du coup, les compagnies minières n'ont pas du tout envie d'investir, puisqu'elles ne gagnent pas assez d'argent. Elles commencent même à parler de fermer des projets, alors qu'on doit en ouvrir, je le disais, énormément si on veut pouvoir faire face à nos besoins. Donc on a un énorme problème. Et puis il y a un deuxième
sujet. Donc c'est conjoncturel.
C'est conjoncturel. Et il y a un deuxième problème qui vient s'ajouter à cela, c'est les changements de politique monétaire des banques centrales
qui
ont remonté les taux d'intérêt compte tenu de l'inflation.
Bon, là, ils semblent stabiliser.
C'est ça. Mais quand vous avez des taux d'intérêt à 5%, comme c'est le cas aujourd'hui aux États-Unis,
c'est encore plus difficile.
Alors qu'on était à 0% l'année dernière, financer des projets comme ça, qui sont des projets, je le disais, très longs, eh ben, ça coûte très cher. Mmh. Et donc, vous hésitez encore plus. Donc, on est vraiment dans une situation très précaire, où aujourd'hui les prix baissent à court terme, les prix baissent à cause de cette sortie de la crise épidémique du Covid, des restes de cette crise épidémique, mais on va avoir, en fait on est en train de tendre un élastique, et derrière il est très probable qu'on ait une très forte hausse des prix de ces métaux.
Bon, il y a une géopolitique des métaux, ce que vous expliquez dans votre livre. Donc du coup, ce que les entreprises n'arrivent pas à faire à cause des taux importants, à cause des prix bas, etc., est-ce que les États y arrivent, prennent le relais?
Alors les États commencent à prendre le relais, il y a une volonté. On l'a vu dans l'Inflation Reduction Act qui a été décidé aux États-Unis. L'Europe est en train de mettre en place un accord qui s'appelle le Critical Raw Materials Act, donc une loi sur les métaux critiques, qui vise à aider au financement justement de ces nouveaux projets miniers, de ces nouveaux projets de raffinage également, et des projets de recyclage. Alors le recyclage ne nous aidera pas à court terme, mais à un horizon de 15 ans, quand on aura...
Pour prendre le relais.
Quand on aura la fin de la première génération des éoliennes, des panneaux solaires et des batteries, on pourra commencer à compter davantage sur le recyclage. Ce qui compte, c'est vraiment cette période à l'idée des 15 prochaines années, comment on gère cette croissance de la demande avec des moyens qui sont limités et des contraintes sur
une stratégie américaine, une stratégie européenne. Vous êtes un spécialiste, si vous les comparez.
Bah, j'ai envie de dire qu'on a pris un peu de retard chez nous.
Nous, les Européens.
Chez les Européens, les Américains ont un pragmatisme très fort. Et puis, ils sont aussi dotés d'un territoire qui est mieux fourni en métaux, d'une part, et d'un territoire qu'ils connaissent mieux pour une raison juridique, tout simplement. C'est qu'aux États-Unis, quand vous achetez un terrain, le sous-sol est votre propriété. Donc, toute personne qui achète un terrain a intérêt à aller regarder en dessous ce qui s'y passe.
Ouais.
En France, quand vous achetez un terrain, le sous-sol n'est pas à vous.
D'accord.
Et donc, on a une très mauvaise connaissance de notre territoire, mais Emmanuel Macron a annoncé un projet de cartographie du territoire au niveau minier qui va être relancé. Est-ce que le dernier date des années 70-80?
Donc, concrètement, on n'échappera pas au fait de réouvrir des mines?
Alors, on n'y échappera probablement pas. Enfin, ça sera en tout cas une bonne chose, parce que si on ouvre les mines chez nous, on a la possibilité de le faire avec des critères sociaux, des critères de gouvernance et surtout des critères environnementaux extrêmement sérieux. Il y a aujourd'hui des compagnies minières en Europe qui sont à la pointe sur ces sujets-là. En Europe du Nord, en Suède, vous avez la société Boliden qui a réduit sa consommation d'eau, qui essaie d'utiliser de l'énergie renouvelable pour faire sa production. Donc on a aujourd'hui des moyens de faire des mines plus propres. Maintenant, il faut être honnête. Faire une mine, c'est faire un trou dans la terre.
Oui.
Donc il y a forcément un impact environnemental. Mais il faut comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, on est en train d'essayer de choisir la moins mauvaise solution. Parce que toute activité économique, quelle qu'elle soit, commence par faire un trou dans la terre, pour prendre des matériaux et les transformer, même une activité de service.
Bon, on est d'accord. Vous dites qu'il y a une stratégie en Europe, aux États-Unis, que l'argent suit à peu près.
Alors l'argent tarde à venir. Ça commence.
Des deux côtés,
France,
ou pas?
La France notamment a mis en place un fonds d'investissement en partenariat public-privé. Ce fonds va être abondé par la Caisse des dépôts et consignations pour 500 millions d'euros. On va essayer de lever, la société Infravia Capital Partners s'est vu confier ce fonds et va essayer de lever à côté 1 milliard auprès d'investisseurs privés pour avoir le potentiel d'investir dans des compagnies minières, dans des sociétés de raffinage et sécuriser nos approvisionnements. Mais on est très loin de l'échelle qu'il faudrait atteindre. Si on regarde ce qui s'est passé en Chine, par exemple, qui a compris il y a longtemps l'intérêt des métaux, la Chine, depuis 2005, a investi 300 milliards de dollars dans le secteur minier. Donc il va falloir qu'on passe à la vitesse supérieure. C'est prévu avec ces textes européens. Et on a bon espoir que les choses s'arrangent. Mais il y a urgence.
Alors, urgence aussi. Est-ce que vous croyez au fait qu'un certain nombre de pays qui sont producteurs de ces métaux, vous le dites dans ce livre-là, pensent à créer une OPEP des métaux? Est-ce que c'est un risque ou pas?
Alors, il y a toujours un risque. Maintenant, dans le domaine des métaux, c'est plus compliqué parce que vous n'avez pas, comme pour le pétrole, une seule matière. Vous avez plein de métaux différents. Mmh. Et donc, vous avez des pays qui vont être très présents sur le nickel, c'est le cas de l'Indonésie par exemple, des pays qui vont être très présents sur le cuivre, c'est le cas des pays d'Amérique du Sud, mais des pays très présents sur le lithium, l'Australie, le Chili. Donc, c'est pas possible de faire une OPEP de tous les métaux. Il pourrait y avoir éventuellement des sous.
Mais en même temps, dans votre livre, vous dites bien que, par exemple, en Amérique du Sud, il suffit que 3-4 pays se réunissent, hein, et du coup, ils ont une certaine concentration.
Bien sûr, mais au-delà de... Même sans parler d'OPEP, vous avez raison, en Amérique du Sud, vous avez ce qu'on appelle les ABC, le Argentine, voilà. Bolivie, Chili, qui, voilà. à eux trois, représentent une très grosse partie de la production et des réserves de lithium. Vous avez la République démocratique du Congo, qui, à elle seule, représente 65% des réserves de cobalt.
C'est énorme.
Vous avez l'Indonésie, qui a une part de plus en plus importante dans la production mondiale de nickel. Donc ces pays n'ont même pas besoin de constituer une OPEP
en eux-mêmes, d'un métal.
En eux-mêmes, ils ont un
poids. Et d'ailleurs, on le voit, ça a commencé. Qui joue cette économie administrée et non pas l'économie de marché.
Bien sûr, on le voit de plus en plus. Par exemple, l'Indonésie, l'année dernière, a décidé que maintenant, il n'y avait plus d'exportation possible de son nickel brut.
Les compagnies minières
sont obligées de ramener la valeur ajoutée sur place, ramener le raffinage sur place pour créer la valeur ajoutée sur place avant de pouvoir extraire leurs métaux. Au début, les gens pensaient qu'ils plaisantaient et finalement, ils ont vu qu'ils étaient sérieux. Et donc, ils ont gagné leur pari et ils ont ramené une grosse partie de la valeur ajoutée là-bas. Et maintenant, ils en sont même à demander aux constructeurs automobiles de venir créer les usines de batteries sur place s'ils veulent pouvoir explorer des nouveaux territoires.
Dernière question, arme d'embargo alors ?
Bien sûr, et ça a déjà commencé, on l'a vu avec la Chine. La Chine a annoncé avant l'été 2023 qu'elle allait réduire, enfin contrôler ses exportations de deux terres rares, le gallium et le germanium, qui sont indispensables à beaucoup de technologies de défense et de technologies renouvelables. Ils ont annoncé après l'été qu'à partir du 1er décembre 2023, ils mettront en place des restrictions d'exportation sur le graphite, qui est indispensable à la fabrication des batteries. Et la Chine est un acteur écrasant sur ce marché. La Chine, aujourd'hui, est l'éléphant dans la pièce. Elle est présente sur le marché de la production de beaucoup de métaux, notamment les terres rares, 90%, et elle est présente à hauteur de 60 à 80% sur le raffinage de la plupart des métaux indispensables pour la transition énergétique.
Merci beaucoup Benjamin Louvet pour vos réponses. L'entretien de l'intelligence économique est terminé, évidemment. Vous pouvez retrouver cette émission sur France24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.